Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du jeudi 5 janvier 2023. Une nouvelle journée sans speaker, la Chambre américaine des représentants a repoussé ses débats à aujourd'hui, les dissensions dans les rangs républicains ayant conduit à l'impasse dans l'élection de son président.
Ce qui est assez incroyable, c'est que ça prouve que les républicains libéraux, plus centristes, n'ont aucun pouvoir alors qu'ils sont la majorité du parti.
L'analyste Jean-François Seznec nous donnera les perspectives sur l'élection de la troisième personnalité de l'État aux États-Unis. Des milliers de personnes sont attendues ce jeudi matin, place Saint-Pierre de Rome, pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI, présidé par son successeur François. Militaire ivoirien détenu au Mali, la CEDEAO a décidé de ne pas sanctionner Bamako. Le président togolais Fonia Singbe, médiateur dans la crise, a visité hier la capitale malienne avant un séjour aujourd'hui à Abidjan. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, le Nigeria va maintenir en place son programme de subvention des produits pétroliers très appréciés. Et le sport, le Cap-Vert, rebaptise l'un de ses stades du nom de Pelé, conformément à une directive de la FIFA. Bonjour, bienvenue, on commence par le journal. La Chambre américaine des représentants n'a toujours pas de speaker ce jeudi, alors que la candidature du républicain Kevin McCarthy a encore été bloquée par un petit groupe d'élus radicaux du parti, en dépit de l'appel à l'unité effectué par l'ancien président Donald Trump. Le point avec Nani Talani.
Chef de file des républicains à la Chambre basse du Congrès depuis 2019, Kevin McCarthy a subi au total 6 revers en autant de votes. Une situation inédite depuis un siècle au Capitole, où le speaker de la Chambre avait toujours été élu dès le premier tour depuis 1923. Favori pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi au perchoir, le républicain Kevin McCarthy est suspendu au bon vouloir d'une vingtaine d'élus trumpistes qu'il accuse d'être trop modéré et joue délibérément les troubles faits. Mercredi matin, Donald Trump a exhorté le groupe d'électrons libres à rentrer dans le rang, mais l'ancien président n'est pas non plus parvenu à les convaincre. L'élection du speaker, le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Kevin McCarthy n'a pour le moment pas réussi à dépasser les 203. Ce blocage a des répercussions très concrètes. Sans président, les élus ne peuvent pas prêter serment et donc passer un quelconque projet de loi. Le président démocrate Joe Biden qualifie cette situation d'embarrassante, assurant que le reste du monde suivait de très près la pagaille au Congrès américain.
Le Congrès américain s'enfonce donc dans la paralysie, incapable d'élire un speaker. La Chambre américaine des représentants a dû se résoudre à repousser ses débats à ce jeudi à la mi-journée, les dissensions dans les rangs républicains l'ayant paralysé jusqu'à rendre impossible le choix de son président. Pour parler de ce blocage, j'ai joint Jean-François Seznec dans l'État du Maryland. Il est politologue, économiste et directeur de Lafayette Group.
Bah écoutez, je pense que non, la cause n'est pas entendue. Je pense qu'il y a une bonne chance qu'il fasse des négociations et que certains groupes qui sont très défavorables à McCarthy pour le moment vont obtenir beaucoup de lui et pourront donc changer leur vote. Personnellement, je pense que lui va maintenant, sans doute, à mon avis, passer.
Alors, le chaos dans cette élection témoigne-t-il d'un grand malaise au sein du Parti républicain?
Ah, absolument, absolument. Ce qui est assez incroyable, c'est que ça prouve que les républicains libéraux, plus centristes, n'ont aucun pouvoir alors qu'ils sont la majorité du parti.
Alors, cela arrange les affaires du parti de l'exécutif, le parti démocrate.
Oui, oui. Il est certain que ça va forcer une partie du parti républicain à travailler de beaucoup plus près avec les démocrates, avec les démocrates centristes. Donc, à mon avis, il y a une sorte de réorganisation du système centriste aux États-Unis entre les démocrates et les républicains centristes qui vont être obligés de s'entendre pour faire passer quoi que ce soit parce que les extrêmes vont essayer de tout bloquer des deux côtés.
Alors, essayons le scénario. Est-ce qu'il est possible que le leader des démocrates soit élu dans cette confusion?
Non, malheureusement, non, je ne pense pas.
Alors, il y a une chance encore pour Kevin McCarthy. Quels sont les scénarios possibles pour un déblocage en sa faveur?
Écoutez, je pense qu'il faudra qu'il fasse des progresses assez importantes sur certains sujets qui comptent beaucoup. Surtout, par exemple, sur le fait que la cession des Républicains pourrait avoir le droit de remettre en cause la position de McCarthy, la position du Speaker, à n'importe quel moment. Et s'il laisse ça faire, on pourrait avoir vraiment des gros changements dans toute l'année, suivant les humeurs des gens. Et ça, c'est assez grave quand même.
Alors, on a senti l'ombre de Donald Trump planer sur cette élection. Dans quelle mesure tout ce qui se passe relance-t-il l'ancien président?
Oui et non. Dans un sens, l'ancien président qui a aujourd'hui dit qu'il faudrait absolument élire McCarthy tout de suite n'a pas réussi aujourd'hui. Donc je pense que les extrémistes sont assez forts maintenant pour vivre sans Trump.
Voilà, c'était le politologue Jean-François Sesnec. Alors que le parti républicain étale ses profondes divisions, le président Joe Biden soigne son image de bâtisseur, capable de construire de vrais ponts autant que de jeter des passerelles politiques, tout en entretenant le suspense sur une nouvelle candidature à la Maison-Blanche. Le point avec Rosine Monezero.
Sous le soleil, devant un vieux pont reliant le Kentucky et l'Ohio, Joe Biden ne s'est pas privé hier de métaphores pour vanter la rénovation du Brent Spence Bridge. Après des années de division politique, il y a dans le pays des zones de lumière et le Brent Spence Bridge en est une. Un pont jeté entre les communautés, entre les partis politiques, un pont symbolisant une Amérique où l'on peut travailler ensemble pour mener à bien des projets, a-t-il déclaré dans le Kentucky qui vote à droite depuis plus de 20 ans. Le président démocrate a même fait l'éloge du ténor du parti républicain Mitch McConnell, sénateur du Kentucky. « Nous avons beaucoup de désaccords, mais ce qui importe, c'est qu'il est un homme de parole », a dit Joe Biden. Pour sa part, Mitch McConnell a estimé que la mise en chantier de ce fameux pont n'était rien de moins qu'un miracle législatif, une référence à l'enveloppe de quelques 1 200 milliards de dollars votée par le Congrès en 2021 pour rénover les vieilles infrastructures.
Le président américain Joe Biden a indiqué mercredi qu'il s'exprimerait aujourd'hui sur la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ajoutant y vouloir la paix et la sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de personnes sont attendues aux funérailles du pape émérite Benoît XVI qui se tiennent aujourd'hui sur la place Saint-Pierre à Rome. Benoît XVI, vous le savez, est mort samedi dernier à l'âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesiae au Vatican où il s'était retiré après sa démission en 2013, la première en 600 ans. Le pape François, 86 ans, présidera les funérailles de son prédécesseur. La cérémonie sera simple, solennelle et sobre conformément aux souhaits de Benoît XVI. La dépouille de l'ancien pape sera inhumée dans la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre, conformément à ses volontés. L'actualité maintenant sur le continent, le président togolais Faure Gnassingbé, qui a assuré la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet, a quitté Bamako pour la Côte d'Ivoire. Éric Manirakiza.
Le président togolais a plaidé la grâce présidentielle avant de quitter Bamako pour Abidjan, a assuré un responsable de la présidence malienne. L'accord entre le Mali et la Côte d'Ivoire laisse ouverte la possibilité d'une grâce présidentielle du chef de la junte malienne, Assimi Goïta. Aucune communication officielle n'a été diffusée sur le contenu de ces discussions en tête-à-tête avec le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Le 22 décembre, une visite à Bamako d'une délégation ivoirienne s'est conclue par la signature d'un mémorandum. Le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, frère du président ivoirien, avait indiqué que l'affaire était en voie de résolution. Puis les soldats ont été condamnés par la justice malienne à 20 ans de prison. Le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CDAO, a déclaré hier qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, malgré leur ultimatum. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème. C'est juste une question de bon sens, a-t-il ajouté devant la presse à Bissau.
Al-Qaïda a revendiqué deux attaques qui ont tué au moins deux pompiers et trois civils lundi près de Bamako dans un communiqué authentifié par l'ONG américaine SIDE, spécialisée dans le suivi de groupes radicaux. Les attaques ont visé les localités de Makagungo et Kassela, toutes deux sur l'axe Bamako-Ségou dans le sud-est du Mali, une zone où elles sont relativement rares. Et puis 19 personnes ont été tuées mercredi dans le centre de la Somalie dans un double attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes radicaux de Shebab. L'attaque a été menée dans la matinée à Maas, localité de la province de Hiran, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les Shebab menée par des milices claniques et l'armée somalienne. Un précédent bilan faisait état de 9 morts. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
Le Nigeria maintiendra en place son coûteux mais très populaire programme de subvention des produits pétroliers, tout au moins jusqu'en milieu d'année. Une enveloppe de 7,5 milliards de dollars a été allouée à cet effet, a fait savoir la ministre nigériane des Finances, Zainab Ahmed. Le Nigeria avait consacré 7 milliards de dollars à la subvention des produits pétroliers entre janvier et septembre 2022. Le président nigérian Muhammadu Buhari a promulgué mardi le budget national 2023 d'un montant de 49 milliards de dollars. Le constructeur automobile Stellantis se lance dans la fabrication d'engins aériens. À l'occasion du grand salon de l'électronique CES de Las Vegas, a annoncé la production d'aéronefs électriques développés par la société américaine Archer et destinés à devenir des taxis volants. Stellantis va apporter jusqu'à 150 millions de dollars à Archer et son appareil à décollage et atterrissage verticaux, conçu pour transporter 4 passagers en plus du pilote. Le fondateur de la compagnie de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman, a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal fédéral de Manhattan à des chefs d'accusation de fraude et autres suite à l'effondrement de son empire financier d'une valeur de 2 milliards de dollars. Le juge a fixé son procès en décembre, ce qui donne le temps aux équipes du procureur et de la défense d'examiner une montagne de documents fournis par le ministère public.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Le Cap Vert rebaptise l'un de ses stades, Stade Pelé.
Le pays des requins bleus a rebaptisé Stade Pelé, l'enceinte jusque-là appelée Stade National. Le Cap Vert devient ainsi la première nation à répondre à l'appel du président de la FIFA, Gianni Infantino, suggérant à ses 211 fédérations membres de rendre hommage au roi Pelé en rebaptisant des stades à son nom. Le nouveau Stade Pelé du Cap Vert, situé à Praia, sur l'île principale de Santiago, compte 15 000 places. Ce changement de nom a été annoncé par le premier ministre capverdien, José Ulysses Correa de Silva. Il évoque une histoire et une culture qui vont de pair entre le Brésil et le Cap-Vert. Pour saluer la mémoire du roi, Infantino a annoncé lundi que la FIFA allait demander à tous ses pays membres de baptiser un stade au nom de Pelé. Nous allons donner l'exemple en renommant le terrain situé dans notre siège Stade Pelé FIFA Zurich, a souligné le président de la FIFA.
Justement, le patron de la FIFA est sous le feu des critiques depuis lundi pour un cliché pris lors des obsèques de Pelé.
On y voit Gianni Infantino posé tout sourire non loin du corps du roi Pelé, exposé sur la pelouse du club de Santos. Aux côtés d'Infantino qui tient le téléphone portable pour prendre la photo, posent trois personnes dont Manuel Maria, meilleur ami du mythique attaquant brésilien. Le président de la FIFA s'est dit atterré par ses critiques sur son supposé manque de respect à l'égard du corps de la légende. J'ai tellement de respect et d'admiration pour Pelé et pour la cérémonie que je n'aurais jamais osé faire quelque chose qui puisse être irrespectueux, a écrit Infantino sur Instagram.
Ici aux États-Unis, le monde du football américain est sous le choc depuis lundi.
L'émotion et l'inquiétude demeurent vives autour de Damar Hamlin. Le joueur du NFL des Buffalo Bills est toujours hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque consécutif à un terrible choc subi lundi pendant un match du championnat de football américain. Selon la franchise de l'État de New York, le joueur est en soins intensifs au centre médical de l'Université de Cincinnati. Dans une déclaration publiée sur leur compte Twitter, les Bills ont indiqué que Hamlin a passé la nuit de lundi à mardi dans l'unité des soins intensifs du centre médical de l'Université de Cincinnati, où il se trouve toujours.
Page de sport VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants n'a pas réussi à choisir son président. Un groupe d'élus conservateurs a continué à voter contre la candidature de leur collègue républicain, Kevin McCarthy, pour diriger la 118e session du Congrès. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point, le récit avec Lionel Gaïma.
Pour la première fois en 100 ans, les législateurs de la Chambre des représentants n'ont pas élu leur président à l'issue d'une série de scrutins, même si les républicains disposent de la majorité à la Chambre basse. Elise Stefanik, représentante républicaine.
Les gens à travers cette grande nation ont dit haut et fort qu'ils veulent une nouvelle direction. Ils veulent une nouvelle direction pour arrêter ce programme radical d'extrême gauche, pour tenir Joe Biden pour responsable et pour sauver les États-Unis d'Amérique.
Après 3 jours et plusieurs heures de vote, le leader républicain Kevin McCarthy n'a pas réussi à obtenir les 218 voix, soit la majorité simple de 234 membres de la Chambre des représentants pour être élu. Les républicains ont une courte avance dans la nouvelle Chambre des représentants, ce qui signifie que McCarthy ne peut perdre que 4 voix et être élu à la présidence. Pas moins de 20 républicains conservateurs se sont opposés à sa candidature. Scott Perry, représentant républicain.
Le type qui veut devenir président de la Chambre des représentants affirme que Washington est brisé. Il a dit dans l'une de ses plus récentes correspondances. Il est intéressant de noter que pendant les 14 années où il a été à la tête du parti, il n'a pratiquement rien fait pour changer les choses.
Et il a préféré voter pour le républicain conservateur Jim Jordan de l'Ohio. Matt Gaetz, un autre élu républicain.
Peut-être que la bonne personne pour le poste de président de la Chambre n'est pas quelqu'un qui le veut vraiment.
Par contre, les 212 démocrates de la Chambre ont voté pour le leader démocrate entrant, Hakeem Jeffries, au poste de président de la Chambre. Pete Aguilar, un élu démocrate.
Madame la greffière, un latino nomme à la présidence de cette chambre un noir pour la première fois de notre histoire.
Mais Jeffries et McCarthy ont été incapables d'obtenir les 218 voix nécessaires pour occuper le perchoir. Les législateurs ne peuvent pas prêter serment et aucune activité législative ou de commission ne peut avoir lieu tant qu'un président n'est pas choisi. L'un des obstacles de M. McCarthy est la perception par certains membres de l'aile droite de son parti qui n'est pas suffisamment loyal envers l'ancien président Donald Trump, qui a encore appelé les républicains d'extrême droite à mettre fin à leur blocage. La session de la Chambre a été ajournée mardi et des nouveaux scrutins devraient se tenir ce mercredi jusqu'à ce que quelqu'un émerge avec une majorité. Il n'est pas exclu qu'un nouveau candidat républicain puisse se manifester.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, l'installation du 118e Congrès des États-Unis. C'est un congrès divisé avec un Sénat contrôlé par les démocrates et une Chambre des représentants dirigée par les républicains. Alors qu'on est à 2 ans de la présidentielle de 2024, ce qui laisse entrevoir de chaudes empoignades pour les mois à venir dans ce contexte de pré-campagne. De son côté, le président Joe Biden a lancé une offensive de charme en direction de certains républicains modérés pour éviter le blocage de son agenda au Congrès. Comment se présente cette 118e législature? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Les États-Unis ont retiré le Burkina Faso du programme de préférence commerciale AGOA pour non-respect des exigences du statut de ce programme. Le bureau du représentant américain au commerce affirme que l'administration Biden est préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement. La loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, en abrégé AGOA, offre aux pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droit aux États-Unis s'ils remplissent certaines conditions comme le pluralisme politique. Yacouba Ouédraogo a joint à Charlotte, en Caroline du Nord, Daniel Anogo, président du African Investments Corporation, un organisme qui fait la promotion des investissements sur le continent africain.
L'impact, ça va être sur les autres agences aussi, qui sont les agences fédérales des États-Unis, des Amériques. Par exemple, les critères qu'ils ont utilisés pour accepter que le Burkina participe au programme d'AGOA, ce sont les mêmes critères qu'ils vont utiliser pour les autres programmes comme la DFC, USAID, et le numéro un critère, c'est la bonne gouvernance. Donc ce programme va avoir un impact sur toutes les autres agences, et c'est ça qui va être un peu troublant pour Burkina.
Est-ce qu'il faut, justement, le Burkina doit s'attendre à voir les aides provenant des autres agences américaines, comme vous les avez citées, par exemple, USAID, être suspendues?
Je pense qu'ils vont suspendre les nouveaux, en fait. C'est ce que je vois. Ils sont bien engagés, USAID est bien engagé en Burkina. MCC, ils ont signé deux compacts avec le pays Burkina. Les autres agences comme USAID, MCC, même DFC, ils ne vont plus regarder Burkina comme avant à cause de cette suspension.
Parlant de cette question de l'AGOA, est-ce que les pays concernés en bénéficient réellement? Est-ce qu'ils arrivent à exporter? Des pays comme le Burkina arrivent à exporter vers les États-Unis?
Disons, en 2019, il y avait 70 000 dollars de produits, c'est-à-dire de trade entre les deux pays. La législation, ça vous aide à amener les produits aux États-Unis sans payer la douane. Mais si vous n'avez pas trouvé un marché et si vous n'avez pas produit assez pour le marché américain, vous n'allez pas avoir des bénéfices. Donc, les pays comme Burkina, ils n'ont pas beaucoup de bénéfices, mais il y a certains pays, comme les Maurice, qui ont beaucoup de bénéfices. Par exemple, sur le textile, en île Maurice, ils ont réussi à travailler la législation d'AGOA, mais ils ont fait le travail qui est de trouver le marché aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils ont des bénéfices. Mais la plupart des pays n'ont pas vraiment eu les bénéfices de l'AGOA parce qu'ils ne produisent pas, mais aussi ils n'ont pas trouvé un marché ou fait la recherche pour trouver un marché pour leurs produits.
Il y a beaucoup qui disent que ce programme-là profite plus aux États-Unis qui investissent aussi facilement dans les pays concernés.
Oui, mais par exemple, les pays qui produisent le pétrole. Le pétrole va rentrer aux États-Unis sans douane. Donc les Américains vont avoir le bénéfice de ça. Mais vous ne pouvez pas comparer le pétrole et les mangues.
C'était Daniel Anogo, président du African Investment Corporation.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Certains Congolais contestent l'arrivée de troupes sud-soudanaises en République démocratique du Congo pour aider à ramener la paix dans l'est du pays. Pour eux, il est inconcevable qu'une armée d'un pays en crise sécuritaire vienne imposer la paix aux autres. Davantage avec Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Pour certains habitants, il n'y a aucune raison qui puisse expliquer l'arrivée de cette armée sud-soudanaise en RDC. Moïse Rangi souligne que les différentes violations des droits de l'homme pour lesquelles les ex-rebelles sud-soudanais se sont rendus célèbres lorsqu'ils étaient au camp de la MONUSCO n'ont jamais quitté la mémoire.
Les Sud-Soudan, c'est en tout cas parmi les pays qui ont les armées les plus faibles au monde. Et même chose, ils sont instables. Les Sud-Soudan, ils sont en guerre et on ne comprend pas comment est-ce qu'un tel pays peut dire être prêt à vouloir nous aider. En plus, les rebelles sud-soudanais étaient cantonnés dans un site de la MONUSCO au nord Kivu. Certains habitants, certainement, n'étaient pas favorables certainement à ces troupes. Donc pour nous, nous désapprouvons ce déploiement et nous pensons que les sites soudanais n'ont rien de spécial pour nous aider.
Pour Chou Bungesso, habitant de Goma, le gouvernement doit cesser de recourir aux forces étrangères et mettre en place un mécanisme de bonne gestion de l'armée congolaise.
Que les militaires qui sont payés ne sont pas du tout bien encadrés. Il fallait investir dans le FRDC pour aussi peut-être faire recours à d'autres militaires. Mais il fallait finir d'abord l'encadrement de nos militaires. Et si la guerre ne se termine pas, peut-être dans une année, dans trois ans, ces gens vont continuer à être ici. Et ils vont nous dominer comme d'autres peuples qui ont commencé à dominer la RDC. Et voilà exactement, nous ne sommes pas d'accord avec l'arrivée de ce militaire.
Le contrôle de l'intégrité du territoire national reste la mission principale d'une armée nationale, estime Evariste Iragui, analyste politique.
Déjà, ce sont des gens qui ne sont pas contrôlés par les forces démocratiques du Congo. Or, en RDC, nous avons une force nationale qui a comme mission essentielle et principale le fait d'imposer, d'avoir le contrôle de l'ensemble des territoires des républiques démocratiques du Congo. Or, actuellement, nous avons de passer les républiques démocratiques du Congo qui ne sont pas contrôlées par nos forces, mais qui sont contrôlées par des forces étrangères. À tout moment, dépendamment de l'accord ou du désaccord qui peut y avoir entre le gouvernement congolais et le force armée du M23, eh bien, ces forces peuvent facilement venir réoccuper ces zones qu'ils ont libérées comme zone tampon, parce que vous avez déjà une force régionale qui peut ne pas avoir le même dévouement que peut avoir le gouvernement, les forces gouvernementales.
Le Sud-Soudan a déclaré qu'il va envoyer 750 soldats. Ces soldats ont suivi une formation de 6 mois selon Djouba. Ils seront intégrés à la force régionale mise en place sous l'égide du Kenya pour pacifier la partie est du pays. Zalem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
La journée mondiale du braille est célébrée ce 4 janvier. Outil indispensable et universel pour les aveugles et les malvoyants, le braille est une forme d'écriture qui fournit une représentation tactile des symboles alphabétiques et numériques, leur permettant de lire les mêmes livres et périodiques imprimés que ceux disponibles en version texte. C'est l'occasion de se pencher sur le handicap dont souffrent les personnes malvoyantes et les opportunités qui s'offrent à eux, notamment en matière d'emploi. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze, nous fait découvrir dans ce reportage un jeune journaliste malvoyant de la première chaîne publique du Gabon, son nom Charles Ogola, suivant son portrait.
Pour Charles, la trentaine révolue, les limites sont là où on se les fixe. Il sait de quoi il parle, l'air débonnaire. Le journaliste qui rejoint ses collègues en salle de rédaction travaille pourtant avec un handicap visuel. Atteint de cataracte dès l'âge de 6 ans, Charles étudie du primaire au lycée presque dans les mêmes conditions que les enfants valides.
J'avais un seul enseignant qui prenait toute la journée pour moi. Or, au lycée, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs professeurs. Donc, c'était compliqué. D'où mon intégration automatiquement à la Fondation Horizon Nouveau, où je vais réapprendre une écriture, le braille. C'était un traumatisme psychologique et mental.
Un traumatisme psychologique que le jeune homme a dû surmonter au fil du temps. Après l'obtention de son baccalauréat série A qui lui ouvre les portes de l'école européenne de communication de Bruxelles en Belgique, Charles décrochera un master 2 en communication, option information et relations publiques. Sur avis de médecin, il abandonnait le braille au profit du numérique.
Dans la formation des malvoyants, quand vous arrivez à un stade, on vérifie votre quota de vision. Si celui-ci vous permet encore de lire, on vous met automatiquement en numérique. Donc, avec une tablette comme vous l'avez vu ici, avec des formats agrandis, pour vous permettre encore d'utiliser la vision. Maintenant, le braille reste accessoire pour des recherches.
De la rédaction, en passant par le montage des reportages.
Le roi Pelé s'en est allé.
Ou des directs sur les plateaux du média public gabonais, le chroniqueur sportif poursuit son challenge en développant plusieurs aptitudes, dont celle de la mémorisation.
Bonjour, grâce. Ça nous demande deux fois plus d'efforts, deux fois plus de curiosité. Maintenant, il y a des limites. Voilà. Par exemple, sur une feuille, là, je ne pourrais pas lire sans lunettes du tout. Mais comme ce n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas, tout c'est sur ma tablette.
Concilier handicap et travail est parfois compliqué. Sans assistant socio-professionnel, Charles doit économiser plus de $2000 américains pour s'offrir une nouvelle paire de lunettes optiques. Une véritable fortune pour ce fonctionnaire moyen de l'État gabonais. Ismaël Obiang-Nze pour VOA Afrique, Libreville.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph, technique Kelvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.